Le journal, bonjour Frédéric Beniada.
Bonjour à tous. À la une de cette édition, le silence de Paris sur les émeutes de Hong Kong, fustigé par des députés de La République En Marche. Dans une lettre ouverte, il vise indirectement l'Élysée et le Quai d'Orsay. Hong Kong, où le trafic aérien a de nouveau été suspendu aujourd'hui après l'occupation, comme hier, de l'aéroport par des milliers de manifestants. Invité de ce journal dans un instant, le député du Vaucluse et président du groupe d'amitié France-Taïwan, Jean-François Cesarini. L'actualité en France, c'est ce drame qui pose question après la mort de trois jeunes enfants dans le naufrage d'une embarcation de plaisance dans la Manche. Ils sont restés coincés dans la coque du bateau, les conditions météo n'étaient pas bonnes pour ce type de sortie en mer. Le sud-est de la France sous très haute surveillance, dans la crainte d'un risque sévère d'incendie. Une trentaine de massifs forestiers sont interdits au public. Nous irons dans les calanques de Marseille pour voir si cette mesure est respectée. L'arme anti-Netflix, après le feu vert du CSA et de l'autorité de la concurrence, les télévisions françaises lancent Salto, la plateforme verra le jour en 2020. Dans le journal également, cette première médicale mondiale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un robot utilisé pour une intervention cochléaire. Qu'est-ce, Daniel Messager?
Eh bien, c'est une avancée dans la prise en charge de la surdité grâce à ce robot, justement, utilisé pour la première fois pour la pose d'implants cochléaires, une pose beaucoup plus précise.
Daniel Messager, la météo comme un parfum d'automne, au moins dans le nord du pays, Elodie Calac.
Des températures un peu justes pour la saison, c'est vrai, 18 à 24 degrés, jusqu'à 31 tout de même pour le sud-est. On a des averses de la Bretagne jusqu'au nord de la Seine, parfois avec des orages et du grésil dans l'après-midi, et puis elles pourraient déborder vers l'Île-de-France en fin de journée. Ailleurs, avantage pour le soleil, mais attention au vent fort sur le sud-est.
Elodie Calac. Les jours se suivent et se ressemblent. À Hong Kong, en proie depuis fin juin, un vaste mouvement de protestation populaire. Comme hier et depuis une semaine, des manifestants pro-démocratie occupent encore aujourd'hui l'aéroport international, l'un des plus fréquentés au monde. Et comme hier, tous les vols au départ et à l'arrivée ont été annulés par les autorités, moyen de pression du pouvoir en place pour accuser les manifestants de plonger la ville dans un véritable chaos. La chef de l'exécutif local, Carrie Lam, dénonce un risque de précipiter la ville sur un chemin sans retour. Juliette Jay.
La ronde des manifestants pacifiques, c'est le nom que se donnent les Hongkongais réunis à l'aéroport. Depuis le début du sit-in, il y a une semaine, le lieu est devenu l'un des points centraux de la contestation. Lindy Guy, étudiante activiste.
L'aéroport est un espace international. Les manifestants pensent que la police va être plus prudente que lors des arrestations dans la rue. Ça a aussi une influence sur l'économie, car les manifestants empêchent les vols de partir ou les font annuler.
Sur les pancartes, des slogans tels que « Bienvenue à Hong Kong, la ville des gaz lacrymogènes », des références aux manifestations violentes du week-end dernier où une femme a pris une balle dans l'œil. Ce matin, la chef de l'exécutif Carrie Lam parle d'un état de panique et de chaos. Pour les manifestants, c'est le gouvernement qui est responsable de l'escalade de la violence.
La racine du problème vient des membres du régime. Ils essaient de pousser les gens à l'extrême. Quand ils marchent pacifiquement dans la rue, les policiers les poussent à bout et ils ne vont pas reculer. C'est ce qui amène les manifestants à utiliser la force et des moyens plus radicaux.
Les protestataires ont aligné les chariots à bagages et forment une chaîne humaine pour bloquer les passagers. Ils l'assurent, ils ne céderont ni à la violence, ni à l'indifférence du gouvernement.
Et aujourd'hui, une vingtaine de députés de la majorité souhaiteraient que Paris soutienne les manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Dans une lettre ouverte adressée aux autorités chinoises, des élus de La République En Marche fustigent le silence de la France, sous-entendu celui du Quai d'Orsay et de l'Élysée. Le texte dénonce le mutisme des autorités françaises face, je cite, à la houle émancipatrice des manifestants hongkongais. Bonjour Jean-François Cesarini.
Bonjour.
Vous êtes député de la première circonscription du Vaucluse et président du groupe d'amitié France-Taïwan. Vous êtes à l'origine de cette lettre ouverte. Vous ciblez qui précisément, le gouvernement français, Emmanuel Macron?
Non, ce qu'on voulait surtout, c'est à la fois pouvoir dire en tant que représentant de la démocratie française, envoyer un signal à ces manifestants qui sont pro-démocratie, avec lesquels effectivement on peut se retrouver sur des valeurs, mais aussi parler à nos amis chinois et leur dire voilà que la France est l'ami de la Chine, mais que la Chine n'a pas à avoir peur de ce genre de manifestation-là. Et on pense qu'en mobilisant un petit peu justement la communauté française et peut-être internationale, les répressions seront peut-être moins fortes. Donc l'idée, c'est pas du tout de cibler le gouvernement français, parce que le silence, il n'est pas simplement au gouvernement, il est aussi dans nos oppositions. Moi, j'ai pas entendu ni les LR, ni le PS, ni le Rassemblement National parler de ces manifestations, alors que pour nous, elles ont une importance majeure qui dépasse, à mon avis, largement le continent asiatique, on a vu que l'ambassade des États-Unis avait reçu des manifestants, notamment en son sein. Il y a des choses qui se passent là-bas. Je pense que c'est important d'en parler, non pas pour être manichéen, non pas pour critiquer justement le gouvernement, pas forcément pour soutenir aveuglément les manifestations, mais dire que c'est un mouvement important, majeur, et que la Chine doit peut-être mieux écouter ces manifestations-là, parce que ça ne peut pas l'affaiblir, mais plutôt la renforcer.
Mmh. Vous vous indignez de ce silence assourdissant de la classe politique sur des événements graves qui risquent de déstabiliser le monde dans son ensemble.
Oui, c'est ça. C'est qu'effectivement, on pense qu'aujourd'hui, si on détourne les yeux de ces manifestations, si on n'en parle pas, alors peut-être que la réponse policière du gouvernement central sera beaucoup plus forte, et une mobilisation effectivement internationale, parce qu'on parle du silence français, mais je n'ai pas beaucoup entendu non plus d'autres pays occidentaux en parler. Je félicite Madame Loiseau qui elle par contre s'est exprimée au niveau européen. Et dire si on n'en parle pas, si on détourne les yeux, alors peut-être qu'un drame va se passer dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent. Il est important de pouvoir parler en ami, en partenaire diplomatique avec la Chine aujourd'hui pour éviter que ça arrive.
Vous craignez une répression de la part de Pékin qui pour l'instant reste relativement calme, même si les autorités chinoises parlent de terroristes en évoquant les manifestants.
Exactement, on parle de terrorisme, on parle effectivement de chemin sans retour. On a vu des vidéos aussi de l'armée chinoise qui faisait des démonstrations et qui est des vidéos qui veulent être intimidantes. Donc on ne sait pas où ça peut aller. On pense effectivement on n'arrivera peut-être pas à ce qui s'était passé à Tiananmen il y a quelques années, parce que ça avait eu des répercussions assez négatives pour la Chine, notamment mis au banc de la communauté internationale et avec des répercussions économiques. Néanmoins, on voit qu'il y a une escalade de la violence qui monte, et je pense que si la communauté internationale s'en saisit, peut-être qu'on peut éviter de pire.
Vous pensez qu'on peut avoir un nouveau Tiananmen ?
Je pense pas, parce que je pense, enfin, après on peut jamais savoir comment ça peut se terminer, mais on voit qu'effectivement ils ont plutôt appris de cette époque-là, et il y avait eu des conséquences assez négatives économiquement et politiquement et géopolitiquement pour la Chine à l'époque de Tiananmen. Donc je pense qu'ils n'ont pas du tout envie d'aller jusque-là, mais c'est pour ça qu'on leur dit, le dialogue doit primer sur la violence, et il y a, à mon avis, plein de choses qui peuvent renforcer ce régime-là en écoutant, et en étant aussi dans la logique l'Empire britannique avait laissé effectivement Hong Kong. Il y avait dans cet accord-là avec la Chine le fait d'approfondir sur le suffrage universel et sur la représentativité. Donc on doit aller dans ce sens-là. Je veux dire, c'est le sens de l'histoire. Et nous, en tant que représentants aussi de l'Assemblée nationale qui est issue de la Révolution française, on sait à quel point la démocratie a conquis le monde aujourd'hui et que c'est plutôt le sens de l'histoire et que la Chine doit l'écouter.
Anne Genetet, la députée des Français d'Asie, a refusé de signer cette lettre et dit en substance qu'il est dangereux de prendre la Chine de face ainsi.
Non, mais l'idée, c'est effectivement, encore une fois, de ne pas être frontal et de ne pas donner des leçons à qui que ce soit et de ne pas être condescendant envers la Chine ou un autre pays. Elle a dit effectivement qu'elle pourrait peut-être signer la dernière page de notre lettre, mais pas la première. Je comprends tout à fait que dans sa position, ça soit plus délicat. Chacun doit œuvrer à son niveau pour effectivement faire avancer les choses. Il n'y a aucun jugement de notre part sur le fait qu'elle n'ait pas signé.
Merci Jean-François Césarini, député de la première circonscription du Vaucluse et président du groupe d'amitié France-Taïwan. L'Amérique en émoi après le suicide dans sa prison new-yorkaise le week-end dernier de Jeffrey Epstein, accusé d'agression sexuelle sur mineur, retrouvé pendu dans sa cellule de Manhattan. Un suicide apparent, selon le procureur de New York. Après avoir été montré du doigt, le ministre américain de la Justice promet de poursuivre l'enquête pour traquer les éventuelles complicités du financier. Selon les médias américains, des perquisitions ont été menées par le FBI sur une petite île des Caraïbes, propriété de Jeffrey Epstein. Une affaire qui pourrait avoir des suites en France. Le financier américain avait un appartement avenue Foch à Paris et se rendait très régulièrement à Saint-Tropez. Des vérifications sont en cours. En Italie, nouvelle réunion du Sénat cet après-midi pour débattre de la date à laquelle sera soumise au vote la motion de défiance déposée par la Ligue contre le Premier ministre Giuseppe Conte. Mais pour l'instant, Matteo Salvini, qui souhaite des législatives anticipées, semble faire cavalier seul. Le spectre d'un retour du péronisme sur la scène politique en Argentine après la défaite aux élections primaires du président libéral sortant Mauricio Macri. Les élections primaires considérées comme une répétition générale de la présidentielle d'octobre prochain. La bourse a chuté de 38% et le peso a perdu plus de 20% de sa valeur. Une bonne nouvelle pour les automobilistes, les prix des carburants sont repartis à la baisse la semaine dernière en France. 1,41€ pour le litre de gazole, 1,51€ pour le sans-plomb 95. Conséquence de la chute des cours, malgré les tensions avec l'Iran dans le détroit d'Ormuz, l'or noir est à la baisse, victime notamment de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, Delphine Simon.
Oui, le baril de Brent, le pétrole de la mer du Nord qui nous sert de référence, est passé sous la barre des $60 au plus bas depuis le début de l'année. Pourquoi ? Eh bien d'abord, surtout en raison de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Pendant que Pékin et Washington jouent leur partie de ping-pong à coups de tarifs douaniers, l'économie mondiale commence à tourner au ralenti. Les besoins de pétrole baissent. Pour l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale n'a jamais été aussi faible depuis la crise de 2008. Pour faire remonter les cours, l'OPEP et ses alliés qui pompent la moitié du pétrole de la planète vont continuer à limiter leur production pendant 9 mois. Mais en face, l'offre reste trop abondante, en particulier à cause du gaz de schiste que les États-Unis produisent à cadence accélérée. Pour certains experts, les cours du pétrole pourraient même partir en vrille et chuter jusqu'à $30 le baril si Pékin décide de passer outre l'embargo américain et d'acheter du pétrole iranien en représailles aux dernières sanctions douanières. $30 le baril, on a déjà connu ça, c'était il y a 3 ans. Certes, une bonne nouvelle pour les automobilistes, vous l'avez dit, mais qui n'aura que des conséquences limitées sur les prix à la pompe. Vu le haut niveau des taxes, elles pèsent 60% du prix de l'essence.
Delphine Simon, en pleine période estivale, difficile de faire le plein au Portugal en raison d'une grève depuis hier des chauffeurs de poids lourds qui ravitaillent les stations-service. Grève illimitée pour des augmentations de salaire. Des centaines de stations-service sont à sec. Le gouvernement a décrété une situation de crise énergétique, ce qui lui permet de rationner le carburant vendu à la pompe et surtout de réquisitionner les non-grévistes. En Malaisie, un corps qui pourrait être celui de la jeune franco-irlandaise disparue depuis une dizaine de jours a été retrouvé. L'adolescente qui souffrait d'un léger handicap était en vacances avec sa famille dans un complexe hôtelier au sud de Kuala Lumpur. Enlèvement ou accident, aucune piste n'est écartée pour l'instant.
France Inter, le journal de 13h. Frédéric Beniada.
Des vacances qui tournent au drame dans la Manche. 3 enfants de 7 et 11 ans ont trouvé la mort hier après-midi après le chavirage de leur embarcation au large d'Agon-Coutainville dans la Manche. Les 3 adultes qui les accompagnaient, éjectés lors du naufrage, ont pu s'en sortir, mais ils sont sous le choc. Les enfants sont restés bloqués dans la cabine et n'ont pu être réanimés à temps. La mer était très agitée avec beaucoup de vent. L'émotion et la colère à Agon-Coutainville, où il était fortement déconseillé de prendre la mer hier. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Reportage de Lucie Tullier.
La pluie s'est invitée sur Agon-Coutainville ce matin, tant à l'image des pensées, des discussions ici. Les habitants et les vacanciers ont la gorge nouée lorsqu'ils évoquent ce drame qui s'est déroulé à quelques centaines de mètres de la plage. À l'image de Jacques ou de Stanislas, rencontré près de l'école de voile avec son fils de 5 ans.
On était un peu choqués, j'ai vu ça dans les nouvelles. Et surtout quand on a des enfants, on se projette un peu plus là-dessus. Et puis bon, tout le monde en parlait ce matin dans la rue. Toute une famille d'un seul coup, c'est terrible. J'ai pas d'autres mots. D'autres mots à la bouche.
Ça me fait tout drôle. Chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, c'est surtout avec des enfants. Ils ne se sont pas rendus compte du danger qu'il y avait dans les rouleaux de la mer.
Daniel, lui, est en vacances à Granville. Il connaît bien Coutainville et ce matin, il a acheté 3 roses blanches et fait la route jusqu'ici.
On est venu spécialement apporter des fleurs, mais on ne sait pas les mettre où pour les enfants. Vous connaissez bien le Passou parce qu'on venait manger là et tout ça pendant les vacances. Et puis bon, on est émotionné, c'est normal. Ce que je comprends pas, c'est que les gens, ils avaient quand même des habitués parce que le monsieur, c'était son bateau personnel. Et puis même là, c'est un peu risqué de prendre la mer, même elle est quand même houleuse. Alors c'est catastrophique, quoi.
La population est choquée, confie le maire de Coutainville. Un moment de recueillement pourrait être organisé, mais pour l'heure, tout le monde est encore ici sous le coup de l'émotion.
La mise en garde des autorités face au risque d'incendie très sévère. Dans le sud-est de la France, une 30aine de massifs forestiers des Bouches-du-Rhône et du Var sont aujourd'hui interdits d'accès au public. Olivier Martoc s'est rendu dans les Calanques de Marseille où les gardes forestiers ont reçu le soutien de scouts pour surveiller les contrevenants.
Devant l'une des barrières d'accès au massif des Calanques, celle de Sugiton, un groupe de scouts de France et de gardes forestiers.
C'est une journée rouge, donc on doit interpeller chaque personne qui veut rentrer dans les Calanques, leur dire que c'est interdit, leur dire que c'est pour leur sécurité aussi du massif.
Ça arrive que des gens veuillent forcer le passage ?
Alors pour l'instant pas du tout, les gens sont super compréhensifs, personne n'a forcé le passage.
Et effectivement, les touristes comprennent la mesure.
Moi je suis marseillais, je trouve que c'est tout à fait normal. Ouais, d'ailleurs, c'est étonnant que j'y ai pas pensé avant de venir. Voilà, mais c'est parce qu'en fait, j'avais une copine qui est parisienne et je voulais vous faire visiter le site.
On est déçus. On est venu de Corse pour pouvoir faire les colloques de Marseille-Cassis. Alors on est triste parce qu'on est là que 3 jours. Priorité à la sécurité et puis on a déjà vu les incendies qui ont fait des ravages.
Pour les étrangers, les explications se révèlent plus délicates. Parmi les jeunes détachés sur ce point d'accès au massif des Calanques, aucun ne parle une langue étrangère.
C'est en anglais. Eh bah, on essaie de leur expliquer comme on peut et puis au pire on leur montre la pancarte comme ça et ils comprennent.
C'est clair ?
Oui.
Yeah. Et pour savoir en temps réel si les Calanques de Marseille sont fermés, il suffit de télécharger l'appli Mes Calanques. Elle est bien sûr gratuite. Lumini. Olivier Martoc, France Inter.
Une femme de 71 ans, poignardée en pleine rue à Port-Vendres dans les Pyrénées-Orientales hier soir, poignardée par son mari, l'homme a été interpellé et placé en garde à vue. Il s'agit du 88e féminicide depuis le début de l'année, un chiffre terrifiant pour Françoise Brié, elle est présidente de la Fédération Nationale Solidarité Femmes.
C'est un chiffre voilà terrifiant et ce sont à chaque fois des drames absolus pour la famille, pour les proches qui souvent auraient pu finalement être protégés. On voit bien que les derniers féminicides qui ont été commis ont eu lieu au moment de la séparation. La plupart des femmes qui ont été tuées souhaitaient effectivement quitter leur conjoint violent. Et lorsque nous, on travaille avec les femmes dans nos associations, c'est vraiment une période sur laquelle on est extrêmement attentive pour préparer le départ du domicile, en sachant que voilà, lorsque des agresseurs sont déterminés, c'est extrêmement compliqué. Et c'est là où il faut des mesures supplémentaires, comme par exemple un bracelet électronique par géolocalisation, mais aussi un meilleur suivi des auteurs de violences, en particulier lorsqu'ils ont été soit condamnés, soit sous contrôle judiciaire, soit en sortie d'incarcération, pour essayer justement d'empêcher ces actes.
Françoise Brié au micro de Clément Paulin. Mission de décontamination aux abords de Notre-Dame de Paris. Les travaux ont débuté aujourd'hui. Objectif, se débarrasser des particules de plomb au sol qui se sont échappées lors de l'incendie de la toiture de la cathédrale en avril dernier. Un nettoyage à ultra haute pression. L'opération doit durer au moins jusqu'au 23 août avant une reprise des travaux du chantier. Et à présent, cette première médicale mondiale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, on a utilisé un robot pour une opération d'implant sur un patient atteint de surdité. Robot bien plus précis que la main de l'homme sur ce type d'intervention, Daniel Messager.
Le patient implanté souffrait de surdité profonde. La technique de l'implant cochléaire consiste à introduire une prothèse électronique à l'intérieur de la cochlée. Alors, la cochlée, c'est l'organe de l'audition. Ça, c'est la partie interne et un autre dispositif étant fixé à l'extérieur de l'oreille. C'est bien sûr la partie interne la plus délicate puisqu'il faut positionner l'appareil en cheminant à travers cette cochlée. Et ce n'est pas simple puisque c'est une sorte de tunnel un peu en forme d'escargot. Lors d'une technique classique, le chirurgien introduit avec la main et pousse. Mais avec ce robot, ça change tout. Il saisit l'implant, l'insère avec de nombreux avantages. Le docteur Yann Nguyen est à la fois un des concepteurs et utilisateur pour la première fois donc de ce robot.
Le robot que l'on utilise est un robot qui est piloté par le chirurgien et il permet de remplacer la main du chirurgien en tenant les instruments à sa place. On peut dépasser les limites de la main humaine, notamment en supprimant tous les tremblements, en couplant le robot à des systèmes de navigation chirurgicale ou en atteignant des vitesses extrêmement lentes ou des espaces qui sont difficilement accessibles avec la main.
Une vitesse de progression très lente, effectivement 0,3 mm par seconde, que ne pourrait pas réaliser la main humaine. Et c'est la garantie d'un bon positionnement, c'est l'essentiel pour la suite.
C'est un acte, cette insertion de l'implant qui est relativement court, qui va durer 1 à 2 minutes, mais qui va avoir des conséquences à long terme pour le patient, puisque le patient va garder ce dispositif médical pendant 20 ou 30 ans.
Et ce robot pourrait maintenant être utilisé à grande échelle pour ce type d'implantation. Un peu plus d'un mois après l'intervention, le patient est sorti de son monde de surdité profonde.
Daniel Messager, l'arme anti-Netflix de France Télévisions, TF1 et M6 verra officiellement le jour début 2020. Un an après la présentation du projet, après le CSA, l'autorité de la concurrence a donné son feu vert au lancement de la plateforme en ligne sur abonnement avec donc un seul objectif, porter un coup à la puissance de Netflix sur une planicie.
Et tout sera donc le défi sera dans le contenu, proposer des programmes suffisamment attractifs pour rivaliser avec les séries stars de la plateforme. 40 millions de vues en un seul week-end pour la saison 3 de Stranger Things le mois dernier, 34 millions pour La Casa de Papel, des programmes auxquels les abonnés de Netflix ont accès en France. Ils sont 5 millions dans un marché du streaming en pleine explosion. Donc oui, après une année de discussion, il était temps de lancer Salto. Sans doute pas pour contrer tout de suite les futurs Apple ou Disney qui se préparent eux aussi à débarquer sur le marché français, mais pour exister dans ce nouveau modèle de diffusion et pour doper aussi la création française et européenne. Tout cela va passer par un système d'abonnement qui pourrait tourner autour de 8 euros, qui fournira en VOD des documentaires, des séries, des émissions, des contenus exclusifs et la diffusion de programmes en direct ou en rattrapage des chaînes des trois groupes. L'autorité de la concurrence a posé des limites pour éviter à Salto un abus de position dominante. Il y aura des restrictions au niveau de l'achat des programmes, de la distribution, de la publicité, mais on voit mal comment un concurrent comme Canal+, par exemple, pourrait encore exister à long terme sur ce créneau de la télévision payante.
Merci Corinne. Un mot de football, Adil Rami viré de l'Olympique de Marseille. Le club a décidé de mettre fin au contrat de son défenseur central. Adil Rami visé par une procédure disciplinaire après avoir raté un entraînement pour participer au tournage de l'émission Fort Boyard. C'est un classique de l'été auquel vous n'échapperez pas. La liste des prénoms les plus donnés en 2018 en France. Et comme l'an dernier, Emma et Gabriel arrivent en tête, Philippe Randet.
Oui, ce n'est pas une surprise puisque Emma et Gabriel sont en tête du classement pour la troisième année consécutive. Alors certes, la mode se ralentit quelque peu, mais ce sont toujours les deux prénoms préférés des Français. 5419 Gabriel sont nés en 2018, 4369 Emma, Raphaël et Léo chez les garçons, Jade et Louise chez les filles complètent le podium. Globalement, les classements évoluent peu. À noter quand même que le prénom Louis, deuxième en 2017, n'est que quatrième en 2018. Jules chute de la quatrième à la huitième place. Et puis, entrée dans le top 10 de Anna et de Maëlle. Autre prénom à la mode dans le désordre chez les filles. Les prénoms en A, Lina, Léa et Mila. Chez les garçons, Lucas, Adam et Hugo. Et comme souvent, l'actualité influence les choix des Français avec deux prénoms de stars qui font leur entrée. Kylian, évidemment. 1211 Kylian sont nés en 2018, année du titre de champion du monde des Bleus. Et Aya, comme la chanteuse Nakamura. 1169 Aya sont nés en France l'année dernière.
Philippe, Corinne, c'est loin dans le classement ?
Je ne l'ai pas vu dans les 20 premiers, ni Philippe d'ailleurs.
Alors quel temps pour cet après-midi ? Ça ne s'arrange pas sur le nord et c'est beaucoup mieux sur le sud, Élodie Calac.
De la Bretagne à la frontière belge, il faut composer avec les averses, parfois avec de l'orage, du grésil, du vent, en particulier de l'intérieur de la Normandie jusqu'au nord de la Seine. En région parisienne, quelques averses orageuses ne sont pas exclues en fin de journée. Ailleurs, c'est plus calme, souvent très ensoleillé, à peine un petit risque d'averse sur les Pyrénées, les Alpes ou la montagne Corse. Sur le sud-est, attention au vent, Tramontane et Mistral peuvent atteindre 80 km à l'heure. Même chose pour le vent de nord-ouest sur le littoral varois ou le vent de sud-ouest sur les côtes Corse. Le thermomètre affiche des températures un peu justes pour la saison. 19 degrés à Brest et à Lille, 21 à Paris, 22 à Colmar, Nevers, Angers, 23 degrés à Lyon, à Cognac, 24 à Toulouse, 27 degrés à Narbonne, 29 pour Nîmes et pour Nice et 31 à Bastia. Demain, toujours du vent pour le sud-est, du soleil sur le sud et l'est du pays et un passage pluvieux qui circulera sur le nord-ouest.